Le service Orange Monnaie, réception de transfert d'argent depuis la France, vous propose appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans la seconde partie d'Appel sur l'actualité. Depuis plus d'un an maintenant, Facebook, Twitter, Viber, WhatsApp sont bloqués au Tchad. Pour des raisons de sécurité, se justifient les autorités. Un argument rejeté par les organisations de défense des droits de l'homme qui dénoncent une volonté de censurer et d'étouffer toute voix discordante. Coïncidence ou pas, c'est le 28 mars 2018 que sont entrées en vigueur ces mesures de restriction de l'accès aux réseaux sociaux. Peu après la tenue d'une conférence national sur la Constitution, conférence qui a eu pour résultat d'autoriser Idriss Déby, au pouvoir depuis 30 ans, à se présenter aux élections présidentielles jusqu'en 2033. Alors le Tchad n'est pas le seul pays où Twitter, Facebook ou encore WhatsApp sont régulièrement dans le collimateur du pouvoir. Ces plateformes ont récemment connu des problèmes en RDC et au Cameroun. Pour qui les réseaux sociaux sont-ils dangereux? Si vous voulez réagir, appelez-nous au 33 9 693 693 70. Ou contactez-nous sur WhatsApp au 33 6 89 28 53 64. Olivier, bonjour.
Bonjour Chantal.
Vous nous appelez de N'Djamena au Tchad. Donc Olivier, est-ce que la lutte contre le terrorisme justifie selon vous le blocage des réseaux sociaux dans votre pays?
Je crois que quand il s'agit de la liberté d'expression, aucun bouclier ne peut permettre au gouvernement de se cacher pour dire que, bon voilà, pour des motifs de terrorisme, nous restreignons la liberté d'expression au peuple. Donc je pense que, pour répondre à votre question précisément, non, ça ne peut pas justifier la restriction de la liberté d'expression via la coupure de Facebook et des autres réseaux sociaux au Tchad.
Quelles sont les vraies raisons qui ont poussé alors votre gouvernement à couper les réseaux sociaux?
La vraie raison, c'est que, comme nous sommes en train de le constater actuellement à travers le monde, les réseaux sociaux constituent un moyen d'information et d'échange entre des groupes qui veulent s'élever et qui veulent manifester dans les États et qui donc veulent mener des manifestations subversives contre les régimes dictatoriaux et des régimes qui se sont éternisés au pouvoir. Et du coup, le Tchad, prenant cette, entre guillemets, jurisprudence, essaie de restreindre les libertés d'expression, parce que via Facebook, les gens peuvent s'informer, peuvent se mobiliser et peuvent beaucoup partager d'informations, parfois même en temps réel, et donc éviter de tomber dans la situation des autres pays à travers l'Afrique. Le Tchad, très prudent, essaie de couper la liberté, de restreindre la liberté d'expression.
Alors le nombre de manifestations anti-gouvernementales a semble-t-il baissé depuis un an au Tchad. Est-ce que d'après vous c'est lié justement au blocage des réseaux sociaux?
Oui, effectivement, c'est lié au blocage des réseaux sociaux d'une part. D'autre part, c'est aussi lié aux intimidations que les gens reçoivent parce que l'ANS, l'Agence nationale de sécurité, qui est le service de renseignement du Tchad, s'infiltre partout, ils suivent les communications de tout le monde à travers Internet, ils intimident, ils enlèvent les gens et tout, mais en grande partie, le manque d'informations, d'échange d'informations via les réseaux sociaux empêche fortement les Tchadiens de pouvoir se mobiliser et de pouvoir se révolter donc contre le pouvoir d'Idriss Déby qui devient un pouvoir absolument dictatorial.
Olivier, comment vous arrivez à contourner la suspension, ce blocage des réseaux sociaux?
Ben, au Tchad, actuellement, pour pouvoir se connecter sur Facebook, même si vous utilisez Airtel ou Tigo, qui sont les deux compagnies de téléphonie mobile au Tchad, il faut passer par le VPN, ou alors il y a dans certains cyber la connexion par la connexion Internet, vous avez la possibilité d'accéder à Facebook ou aux autres réseaux sociaux. Mais là aussi, c'est extrêmement restreint. Il y a des jours où la connexion ne passe pas du tout sur Facebook et autres. Donc, c'est un cas extrêmement difficile.
Merci beaucoup, Olivier, de nous avoir appelé. Je vous souhaite une bonne journée à N'Djamena. Direction Kisangani à présent. Didier, bonjour. Didier?
Oui, allô.
Oui, bonjour Didier.
Bonjour,
en RDC, c'est gentil. En RDC, les réseaux sociaux ont été coupés hein, également, mais là, au moment de la présidentielle, comment avez-vous réagi à cette coupure des réseaux sociaux?
Oui, effectivement, Chantal, il était plus qu'important que l'on puisse couper les réseaux sociaux en ce moment-là, parce que il y avait beaucoup d'informations qui étaient distillées au niveau de Facebook, au niveau de WhatsApp, et qui pouvait mettre le pays en feu et en sang. Alors, ce que vous savez, il n'y a que la Commission électorale nationale indépendante qui est habilitée à publier les résultats des élections, mais il y a des gens qui publiaient même des fake news qui donnaient des résultats comme ça, et cela risquait de créer un trouble au niveau du pays. Ainsi que, en tout cas, j'étais pour cette décision-là, à cette époque-là, évidemment, pour qu'il n'y ait pas distorsion de l'information et que le tout se passe comme nous le connaissons actuellement. Je crois que, tel que les résultats ont été publiés par la CENI, il y a du calme qui règne dans le pays. C'était une chose importante pour notre pays.
Vous ne pensez pas que c'est à chacun d'exercer son esprit critique et de ne pas croire toutes les fake news, par exemple, qui sont colportées par les réseaux sociaux?
Non, vous savez, la population congolaise est vraiment une population qui, parfois, peut ne pas croire que c'est un fake news. Il est très sensible, elle est très sensible de cette population et qui risquait à des moments, parce qu'on est pour tel candidat et qu'on est contre tel candidat, provoquer du trouble. Il était important que cela soit d'abord momentanément suspendu pour que les résultats soient publiés. Je crois qu'il revient maintenant à chacun de voir est-ce que les résultats publiés ne sont pas conformes à ce qui a été fait. Et les cours et tribunaux sont là pour connaître des contentieux électoraux. C'était vraiment important, plutôt que de laisser la population parfois être clouée par des blogueurs, par des personnes mal intentionnées.
Merci Didier d'avoir contribué à ce débat. Bonne journée à Kisangani. Lionel, bonjour.
Bonjour Chantal Roux, bonjour à tous les auditeurs de la RFI, la radio mondiale.
Alors vous habitez à Kinshasa et je pense que vous n'êtes pas d'accord avec Didier, votre compatriote de Kisangani. C'est bien ça?
Parfaitement, je ne suis pas d'accord. Surtout quand il dit, il rappelle la mission, la compétence de la CENI qui est censée et publier les résultats. Je me dis que ça n'a pas des rapports tout simplement à ce que nous disons. Je donne l'exemple toujours la journée des votes en RDC. Les électeurs qui publiaient les résultats dans les différents centres pour seulement constater ce qui s'est passé pendant cette journée des votes, les candidats qui avaient plus de voix par exemple, et ça ce n'est pas publié à la place de la CENI, ça c'est non plus voler les rôles ou la mission de la CENI, mais c'est seulement que les électeurs étaient tellement éveillés. On voulait justement partager ça et communiquer ensemble. Mais je vais prendre un autre exemple quand il s'agit des manifestations. On sent la police est censée réprimer et comme ça intercepter des manifestations. Pourquoi également on coupe la connexion? Mais c'est tout simplement pour cacher l'information. Au cas où il y a des victimes, il y a des morts, des blessés, et les chiffres qu'on nous donne, ça ne correspond jamais à ce que nous, on a vécu par exemple sur terrain. Moi, j'en ai témoin plusieurs fois, et j'ai vu comment on cache. Et moi, je trouve forcément la raison qui justifie la coupure d'Internet, ce n'est qu'une raison purement politique, pour cacher et toutes ces informations nous empêcher de communiquer et à même temps, surtout dans les années, atteindre la diaspora. Ça, c'est vraiment, je pense, c'est une violation parce que la communication est un droit, la communication est naturelle, on ne peut pas jamais priver à toute une nation, à tout un peuple, surtout à la jeunesse qui est censée aujourd'hui, suite à l'Internet, faire des recherches, ses travaux, les étudiants qui font leur mémoire, etc. Donc, je pense que ça, c'est très mal fait et c'est contre les droits, j'en ai l'impression.
Merci Lionel de nous avoir appelé. Bonne journée. On reste à Kinshasa. Darly, bonjour.
Bonjour Chantal, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que Lionel? Vous pensez, vous aussi, que quand les réseaux sociaux sont coupés quelque part, c'est pour des raisons politiques?
Non, mais déjà, je suis sur la même longueur d'onde que Lionel et je m'inscris en porte-à-faux contre Didier qui m'a précédé sur l'antenne.
Qui nous appelait de Kisangani.
Exactement. Donc, je crois fermement que les les fake news ou la désinformation n'est pas le propre, ou ce n'est pas du tout l'apanage des réseaux sociaux. Hein. C'est bien plus ancien à Facebook ou à Twitter. Hein. C'est des choses qui existent depuis bien longtemps. Donc je pense que dans un pays qui se veut quand même démocratique comme la RDC, restreindre l'accès à l'information alors que celle-ci est garantie dans la Constitution congolaise, c'est simplement inacceptable. Donc je suis d'avis que les citoyens congolais ont bel et bien le droit d'avoir accès à l'information. Hein. Les manipulations d'information ne relèvent pas simplement des réseaux sociaux. Elles sont aussi très récurrentes, notamment ici chez nous, via les médias classiques, que ce soit les chaînes de télévision ou les chaînes de radio. Mais j'aimerais quand même essayer de mentionner un élément qui me paraît important puisque nous parlons des réseaux sociaux. On a quand même constaté, notamment avec les mouvements des revendications sur la partie du Maghreb en Afrique, que ce soit aussi en Afrique subsaharienne, une part assez importante des analystes qui accordaient, qui étaient d'avis au fait que les réseaux sociaux étaient le point déclencheur. Je pense qu'il faut quand même relativiser, dans une certaine mesure, l'apport des réseaux sociaux dans ces mouvements de revendication, parce que s'il faut évoquer des éléments factuels qui sont alors des éléments déclencheurs des mouvements des revendications que nous avons eus sur le continent, c'est d'abord des problèmes économiques et politiques. À côté de ça, il y a aussi la fracture numérique. La plupart des populations africaines n'ont pas accès à Internet. Donc, assimiler complètement tous ceux qui sont en train de faire des revendications via des personnes qui auraient accès à Internet, c'est quand même assez biaisé. Pour autant, je suis aussi d'accord que ces outils ont permis notamment d'amplifier ou d'enraciner la plupart des mouvements que nous avons pu avoir un peu partout sur le continent.
Alors, en début d'émission, je posais la question, pour qui les réseaux sociaux sont-ils dangereux? Alors, qu'est-ce que vous répondez?
Non, mais je pense que cette question-là, il n'y a pas de réponse toute faite. Hein. Ça peut dépendre d'un environnement à un autre. Hein. Une chose est vraie, c'est que sur le continent africain, nous savons que les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont effectivement dangereux pour des régimes policiers qui veulent carrément museler la parole, qui veulent carrément museler la liberté d'expression. Pour ces types de régimes, c'est clair que les réseaux sociaux, l'accès à Internet, l'accès à l'information via Internet est carrément à restreindre.
Alors, quand les réseaux sociaux ont été coupés en RDC, là, au moment des élections, est-ce que vous avez réussi à contourner, vous, ce blocage?
Bon, quand les réseaux sociaux ont été coupés la toute dernière fois, je pense qu'au mois de janvier, avant la publication des élections en RDC, moi, personnellement, je n'ai pas pu. Et la plupart des Congolais, peut-être, n'ont pas aussi pu, parce que c'est carrément le flux Internet qui a été coupé. Donc, c'était carrément difficile, même en ayant un VPN dans un mobile, d'avoir accès à Internet. Ça a carrément été coupé, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour les universités. C'est carrément toute la société qui avait été paralysée. Et il y a un coût économique derrière. Donc je pense qu'il faut aller au-delà de ces considérations politiques. La liberté de parole aujourd'hui sur Internet doit être garantie. Donc museler cette liberté de parole via les réseaux sociaux, c'est très compliqué parce que les usagers trouveront toujours des moyens pour contourner cela. Ça, c'est une évidence.
Merci beaucoup, Darly, de nous avoir appelé. Bonne journée à Kinshasa. On a beaucoup de messages sur Facebook. Je vais vous en lire quelques-uns. Djabarou nous écrit du Tchad. Bien sûr que c'est un danger pour les gouvernants qui ont peur de la jeunesse. Les réseaux sociaux constituent aujourd'hui un outil pour la jeunesse pour exprimer des opinions qui ne sont pas favorables aux dirigeants. C'est en toute logique qu'ils perçoivent cela comme dangereux. Toujours du Tchad, Salé nous écrit: cette interdiction n'a aucun sens. Le gouvernement doit lever cette mesure, car la plupart des Tchadiens la contournent, cette interdiction, en se connectant via le VPN, même si cela coûte très cher. Le Tchad est d'ailleurs l'un des pays où la connexion Internet coûte le plus cher. Et puis, du Cameroun, Emmanuel nous écrit: c'est l'activisme des internautes qui fait trembler nos dictateurs. La contribution des réseaux sociaux dans la démocratisation de l'Afrique est incontournable. Et puis Cyril nous écrit de Douala au Cameroun également: je trouve que cette décision est à la fois salutaire et suicidaire. Pour lutter contre les fausses nouvelles, cette mesure est salutaire. Par contre, cette décision est suicidaire pour toute personne qui voudrait participer à la vie sociopolitique du pays. Cette décision prouve que l'État tchadien n'a pas les capacités de gestion nécessaires pour jouer les gendarmes face aux cybercriminels. On va partir maintenant pour le Cameroun justement. Willy, bonjour.
Oui, bonjour Chantal et bonjour aux auditeurs de RFI.
Alors Willy, quelle est votre position à vous, hein, qui nous appelez de Yaoundé, sur cette coupure des réseaux sociaux?
Moi, je pense que les responsables politiques de nos pays ont vraiment mal à faire. Hein. Il faut relever que l'Internet est un outil très important pour le développement économique de leur pays. Donc, ils sont bien conscients de l'importance de cet outil. Mais il se trouve aussi qu'ils ont la responsabilité de préserver la sécurité pour toutes ces populations. Et lorsque les réseaux sociaux sont susceptibles de freiner ou alors de ralentir leurs besoins d'encadrement des populations, il est tout à fait normal, me semble-t-il, qu'à un moment on soit obligé de les suspendre. Je sais que pour
Willy? Ah, il semble qu'on ait perdu Willy. Est-ce qu'on a un autre auditeur en ligne? Oui, on a Serge qui nous appelle de Yaoundé. Bonjour Serge.
Bonjour.
Alors ces coupures des réseaux sociaux au Tchad, en RDC, mais aussi dans votre pays, le Cameroun, est-ce qu'elles vous inquiètent?
Ben absolument. Tout ce qui va dans le sens de remettre en surface des pratiques obscurantistes ne peuvent qu'être condamnées. Et je me rends compte, évidemment, j'ai bien écouté les auditeurs depuis cette émission. Et lorsqu'on se situe sur la sphère purement sociale, on peut effectivement craindre un certain nombre de dérives liées à l'usage de ces réseaux sociaux. Mais quand on met sur la balance ces dérives et ce que ces réseaux sociaux ont pu apporter en termes de formation, d'information et d'émancipation sociale, cette dernière vague d'arguments emporte largement sur les dérives qu'on peut constater. Ramener sur la sphère politique, évidemment, les dirigeants, le système dirigeant qui sont là et qui très souvent sont conduits par des personnes intrinsèquement pas toujours à la hauteur, on peut comprendre leurs craintes et qu'effectivement l'émancipation sociale liée à ces réseaux sociaux soit une préoccupation, voire une inquiétude pour ces dirigeants qui parfois jaillissent comme ça de nulle part et ne sont pas toujours à la hauteur des espérances sociales.
Comment vivez-vous, vous, quand vous êtes privé de réseaux sociaux, non seulement d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue professionnel?
Mais pour une seule seconde de déconnexion, on a l'impression de vivre une sorte de prison à ciel ouvert. Donc c'est intenable. Et pour nous, à titre personnel, ces réseaux sociaux sont pour moi un outil de travail essentiel. Sinon, le premier d'ailleurs, moi je travaille beaucoup avec des partenaires étrangers et j'utilise ces réseaux sociaux comme c'est le premier outil de travail dont je m'en sers pour faire avancer mes projets d'entreprise. Donc ne pas les avoir pour une seule seconde, c'est complètement insupportable pour moi.
Merci beaucoup Serge de nous avoir appelé. Bonne journée à Yaoundé. On va partir pour Douala. Binas, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Alors, comment vous réagissez-vous à ce problème de coupure des réseaux sociaux par plusieurs pays, hein. On le voit actuellement au Tchad, ça fait plus d'un an que les Tchadiens sont privés des réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bien, écoutez, cet argument du gouvernement n'est pas du tout fondé, dans la mesure où tous les pays limitrophes, je commence d'abord par le Nigeria, qui a trop de problèmes de se péter là-bas, et qui n'ont pas restreint d'accès aux réseaux sociaux. Il y a le Cameroun, il y a le Niger, le Soudan et la RCA. Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui se déplacent, qui va dans une ville voisine, disons à 7 km de Djabana, pour se connecter là-bas. Vous voyez, ça déjà c'est un problème. Et vous savez que au Tchad, la connexion coûte 500 francs. 500 francs la minute, ça veut dire que 500 francs l'heure, pardon. Et c'est extrêmement cher. Et donc, pour moi, les causes de restriction d'accès aux réseaux sociaux ne sont pas vraiment les causes fondamentales. Et en conclusion, je dirais que c'est pas une solution.
Merci beaucoup, Binas, de nous avoir appelé de Douala. Appel sur l'actualité, c'est fini pour aujourd'hui.